Sécurité Santé avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elles sont de plus en plus nombreuses inscrites en faculté de médecine et toujours plus nombreuses à exercer. Les femmes médecins aujourd'hui en France représentent plus de 59% des inscrits à l'ordre professionnel. Et elles pèsent aussi pour 53% des temps pleins à l'hôpital. Mais derrière cette féminisation indiscutable, il y a une autre réalité dont nous avons choisi de vous parler aujourd'hui dans Priorité Santé. Il s'agit du plafond de verre en médecine, ces postes à responsabilité prestigieux qui restent encore le plus souvent occupés par des hommes. 70% d'étudiantes réussissent le concours de médecine, mais seulement 10% de femmes chefs à l'APHP qui regroupe les hôpitaux parisiens. Représentation inégale aussi en fonction des spécialités. Le chirurgien au masculin à la vie dure, des femmes sous-représentées encore dans l'enseignement de la médecine, 22% seulement, même chose en ce qui concerne les publications médicales. À 63%, elles sont signées par des hommes, d'après un décompte opéré par l'Université d'Oxford en 2020. Alors, faut-il parler de discrimination ? Quel rôle jouent les réseaux ? Comment l'engagement familial pèse-t-il sur les carrières ? Et comment expliquer que dans les médias, les experts en santé les plus visibles restent encore aujourd'hui très majoritairement des hommes ? Comment changer les choses ? Attendre ou agir ? Autant de questions dont nous allons débattre avec nos invités au féminin. Visibilité, responsabilité, mais aussi harcèlement. Femmes médecins, le plafond de verre existe-t-il ? 5 voix de femmes, 5 parcours pour illustrer ce propos. Avec nous en studio, professeure Karine Lacombe, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On retrouve en ligne le docteur Sabrina Benbouzid, bonjour.
Bonjour.
Chirurgienne urologue à l'hôpital Tenon à Paris. 3 femmes médecins qui exercent ou ont exercé sur le continent africain. Le futur avec Mam Aminata Camara, étudiante en 6e année de médecine à l'université Cheikh Diop de Dakar au Sénégal. Le présent avec le docteur Nadine Nimarou Kungu, médecin résident en gynécologie obstétrique, formatrice et membre du conseil d'administration de la fondation Pandi à Bukavu, où elle exerce depuis 19 ans aux côtés du professeur Denis Mukwege, donc à Bukavu en RDC. Et puis une pionnière, le professeur Awa Marie Kolsek, chercheur infectiologue, ministre d'État auprès du président du Sénégal et ex-ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Priorité santé sur RFI.
Invité au féminin pluriel, vous êtes en quelque sorte aussi deux contre-exemples, mesdames. Professeure Karine Lacombe, chef du service Paris-Saint-Antoine, professeur des universités, praticien hospitalier, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait.
Alors, vous n'êtes pas nombreuses à Paris à occuper ce type de responsabilité ?
Non, c'est vrai. En maladie infectieuse, en tant que chef de service, je suis la seule, mais nous sommes heureusement plusieurs professeurs des universités en maladie infectieuse. C'est vrai que c'est compliqué, que la période passée, les années passées ont quand même vu l'émergence d'une nouvelle génération de femmes qui pour l'instant ne sont pas encore aux commandes, mais j'espère que les choses vont changer. Et on voit effectivement que dans les universités, il y a plus en plus de mise en place de commissions de parité qui sont là justement pour faire en sorte que les femmes prennent toute leur place.
Effectivement, cette féminisation globale, on la voit dans les chiffres, il y a aussi une question de démographie. Professeur Karine Lacombe, est-ce que vous avez des éléments d'explication pour comprendre pourquoi vous, à titre personnel, c'est peut-être un peu difficile d'avoir du recul sur soi-même, mais quand même, vous n'avez pas subi de frein dans votre ascension vers ces fonctions, on peut le dire, de prestige ?
Alors, je ne dirais pas que je n'ai pas subi de frein, je dirais plutôt qu'il y a eu des freins que j'ai réussi à contourner. C'est un peu différent, souvent au prix de sacrifices personnels, sacrifices familiaux, sacrifices de vie privée. C'est vrai que pour atteindre ce type de fonction, il faut être porté soi-même par quelque chose de plus fort que nous, qu'on peut appeler la vocation. Et qui implique qu'à un moment donné, on a sacrifié des choses, sacrifié un mode de vie plus facile, en particulier parce que pour être PUPH, comme vous l'avez expliqué, il faut viser une certaine excellence. Et peut-être quand on est une femme, c'est plus dur. C'est plus dur parce que depuis notre plus jeune âge, on est souvent conditionné à tendre vers ce qu'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire que tant qu'on ne s'estime pas excellente, eh bien on va s'autocensurer, on n'ira pas par exemple sur le devant de la scène avec des connaissances que l'on juge soi-même imparfaites. On est aussi conditionné par notre rôle de femme, notre rôle de mère, le fait d'avoir des enfants, de vouloir construire une vie de famille, eh bien fait qu'on a à un moment donné de notre carrière professionnelle moins de disponibilité pour se mettre sur le devant de la scène, par exemple sur le plan scientifique avec la rédaction d'articles, etc.
Et c'est vrai que c'est une question qu'on pose aux femmes, qu'on ne pose pas forcément aux hommes.
Tout à fait.
La vie familiale.
Absolument.
Docteur Sabrina Benbouzid, alors vous avez choisi la chirurgie. En 2015, moins d'un poste de chirurgien sur 5 était occupé par une femme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti au cours de votre apprentissage pendant ces années de formation, que vous, les femmes, vous n'étiez pas nombreuses à être titulaires en chirurgie, mais peut-être que quand vous êtes formées, les choses étaient déjà en train de changer?
Alors, moi, effectivement, quand j'ai débuté mes études étudiantes, j'étais dans un CHU, c'est un centre universitaire hospitalier, où l'urologie, il y avait la moitié, c'était des femmes. Et c'est quand j'ai passé l'internat que je me suis rendu compte qu'on n'était pas si nombreuses à avoir choisi de la chirurgie. Et qu'effectivement, au niveau des postes de titulaires, il y avait très peu de femmes, mais que c'était en train de changer. Et c'était aussi à nous de faire changer les choses. Et il suffisait juste d'y... Enfin, bien sûr, il faut beaucoup travailler. Hein. Je rejoins un peu les propos qu'a dit ma collègue tout à l'heure. Mais il faut effectivement beaucoup plus travailler, renoncer à certaines choses sur sa vie personnelle, et travailler beaucoup plus dur des fois qu'un homme.
Avec des images, peut-être même d'ailleurs des clichés, incompétence, adrénaline, autocensure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des spécialités qui sont réputées macho où le débat se situe à un tout autre niveau ?
Alors moi, la spécialité que j'ai trouvée la plus macho, ça reste la gynécologie en fait. Même si c'est une spécialité qui est entre guillemets où on s'occupe de la femme, même à l'heure actuelle, toutes les grosses interventions, les postes un peu clés, ça reste détenu par des hommes. Et à contrario, des spécialités comme l'orthopédie où on pourrait croire que c'est très macho, moi j'ai trouvé les hommes beaucoup moins misogynes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'une spécialité comme la gynécologie.
Avec un certain nombre de clichés à renverser. J'ai même consulté un article de 2017 de la revue British Medical Journal qui tentait de déterminer si le sexe du chirurgien impactait la qualité de l'acte chirurgical. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors non, ça n'impacte pas la qualité de l'acte chirurgical. Je pense que les femmes, on est tout aussi compétentes qu'un homme pour opérer.
Mais qu'on
après,
se pose la question, docteur.
Après, c'est le
qu'on
ressenti
se pose la question. Qu'on se pose la question. C'est-à-dire que une étude médicale pose cette question.
C'est pas normal qu'on se pose cette question. C'est pas normal. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, le ressenti du patient, ça dépend des générations, mais vous avez quand même beaucoup de patients qui, quand vous êtes une femme, vont demander où est le chirurgien. Moi, on me l'a plusieurs fois fait. Ou quand il suffit que vous ayez un étudiant beaucoup plus jeune que vous, masculin, on va spontanément s'adresser à lui et l'appeler le professeur, et vous, alors que c'est vous le titulaire.
Vous allez chercher un café, hein.
Voilà, allez, est-ce que vous pouvez nous préparer le café? Ou on me regarde et on me dit la perfusion est vide.
Professeur Karine Lacombe, alors, on va dire, on a parlé tout à l'heure des médias aussi, la sous-représentation des femmes dans les médias, en particulier dans cette période de crise sanitaire. Vous en avez d'ailleurs fait personnellement les frais. On va dire peut-être une exposition sur exposition, brassée d'injures sexistes sur les réseaux sociaux. Il y a eu une revue, moi aussi, je me réfère aux revues scientifiques, dans The Lancet en décembre, une tribune où vous dénoncez avec deux consoeurs la diffamation, le harcèlement, les attaques misogynes. Il y a un moment donné, il ne faut pas simplement se plaindre, se couper des réseaux, mais aller plus loin et s'adresser à la communauté médicale.
Oui, absolument. Je pense que la réponse apportée, c'était vraiment pas de se taire, justement, mais d'avoir la parole et de la garder et d'expliquer pourquoi on la garde. Et c'était l'objectif de cette tribune de faire face et de montrer que, un, on est déjà unis, On n'est pas seul, hein. On est plusieurs femmes unies dans le même combat qui est celui de porter la parole scientifique et que l'expression de cette parole scientifique ne doit en aucun lieu donner place au harcèlement comme on l'a vécu chacune de notre côté sur les réseaux sociaux en particulier.
On vous retrouve dans quelques instants. Docteur Benbouzid, professeur Lacombe, femme médecin au pluriel, aujourd'hui dans Priorité Santé. Professeur Awa-Marie Colsec, bonjour.
Bonjour.
Je précise que cet entretien a été enregistré. Et madame, lorsque l'on vous présente, en fait, il faut trier parmi vos titres et fonctions. Aujourd'hui, ministre d'État auprès du président de la République, ancienne ministre de la Santé et des Affaires sociales du Sénégal, infectiologue, virologue, première femme agrégée en médecine dans votre pays. On vous décrit souvent comme une pionnière. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous d'avoir ouvert des portes, d'avoir repoussé certaines limites ?
Oui, certainement. De la même manière qu'une femme médecin de mon entourage m'a inspiré et servi de modèle, il s'agit du docteur Mamdel Salba. C'est vraiment, pour moi, beaucoup de limites qui ont été poussées. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir été invitée il y a quelques années dans un lycée de jeunes filles. Et beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles voulaient être médecins. Parce que j'étais leur modèle.
Il faut des figures qui inspirent, médecins, chercheurs. Vous avez été chef de service des maladies infectieuses au CHU de Fannes. J'imagine qu'alors, c'était complètement inédit pour une femme.
C'était inédit, mais aujourd'hui, il y a énormément de femmes médecins, il y a des femmes internes des hôpitaux, des femmes professeurs d'université. Donc, je me dis que ce n'est plus rare maintenant.
Si on regarde les chiffres, il y a encore des différences au niveau justement de la représentation des hommes et des femmes. Il y a aussi des différences au niveau des choix des spécialités. Alors quand vous êtes orienté vers cette spécialité des maladies infectieuses, hein, on est alors au milieu des années 70, vous travaillez ensuite beaucoup sur le VIH-Sida. Est-ce que ce choix a surpris ?
C'est vrai que certains de mes professeurs qui considéraient leur spécialité comme étant la meilleure, ont été, disons, déçus que j'aille aux maladies infectieuses parce que, bon, peut-être que j'avais, disent-ils, d'autres potentialités. Mais les maladies infectieuses, pour moi, c'était le concret et j'ai eu là aussi un grand maître, le professeur Ibadjomar Diop, qui m'a attiré vers les maladies infectieuses et vers le sida après. Puisque nous avons eu à diagnostiquer les premiers cas de sida au Sénégal.
Alors, clinicienne, chercheur, engagement aussi en politique, l'OMS, l'ONU Sida, Rollback Malaria. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression, professeur Awa-Marie Colsec, d'être un peu l'arbre qui cache la forêt ? On dit, regardez, elle a réussi à tout faire, à gravir tous les échelons. C'est donc possible ? Vous parliez tout à l'heure de ces élèves dans un établissement scolaire. Elles y croient en leur chance, elles aussi ?
Elles y croient et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui leur montrent que c'est possible. Mais c'est à nous de, disons, tendre la main à ces jeunes. Je voudrais vous donner un exemple. Je préside depuis 3 ans le Forum Galien Afrique qui annuellement propose des activités scientifiques et une formation en leadership pour plus de 200 étudiants africains en fin de cycle sélectionnés parmi les meilleurs. Et ça, c'est pour moi une ouverture vers les plus jeunes pour les tirer vers le haut. Et nous avons aussi une expérience de jeunes entrepreneurs qui sont mis en contact aussi avec des investisseurs. Donc, c'est à nous vraiment de faire l'effort, pas seulement d'être des modèles, mais d'aider les gens à devenir peut-être ce qui est leur rêve. Et en médecine, c'est être professeur, être médecin, être sur le terrain et faire ses preuves.
L'expression « plafond de verre », vous pensez que c'est quelque chose qui existe encore ?
C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'exemples. Je pourrais donner l'exemple en Afrique de l'Ouest. Madame Johnson Sirleaf a été présidente de la République au Libéria. Nous avons une présidente également en Éthiopie. Vous avez vu, si je prends un autre continent, la vice-présidente actuelle des États-Unis, également la nouvelle directrice
de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce.
Ouais. Voilà, l'OMC, la Nigériane Ngozi. etc. Donc c'est vrai que c'est plus difficile pour les femmes d'arriver au sommet. Mais il y a de plus en plus de femmes. Il y a aussi des exemples qui montrent qu'il ne faut pas dire non, on ne pourra jamais arriver à cela. Et c'est sur cela aussi qu'il faut compter. Les modèles sont importants et c'est ceux qui tirent les jeunes peut-être vers l'excellence.
Et enfin réussir à briser ce plafond de verre. Merci infiniment, professeur Awa-Marie Colsec. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Et cette question donc toujours dans Priorité Santé, comment favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité en santé, plus de profs de médecine, fameuse question qui revient toujours ou presque, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, l'investissement personnel, l'emploi du temps peu compatible avec la vie de famille. D'ailleurs, est-ce que ce sont des questions qui se posent pour les hommes? Pas forcément. Un certain nombre de considérations, on va dire, qui relèvent de la vie privée. Et notamment, là, c'est carrément très privé, professeur Karine Lacombe, la question de la grossesse, c'est une réalité pour les femmes médecins. Un tiers des femmes médecins hospitaliers considèrent qu'avoir un enfant constitue un frein à la carrière. C'est une question qui se pose, que se posent les femmes médecins?
Ah ben oui, tout à fait, bien sûr.
Avec quand la durée des études?
Absolument. Quand on fait un enfant, c'est 4 mois d'arrêt. Quand on en fait 2, quand on en fait 3, c'est 6 mois d'arrêt. Et quand on ajoute cela au sein d'une carrière scientifique où l'on doit absolument atteindre
certains critères en termes de publication,
mais surtout des moments dans sa vie scientifique où on doit avoir atteint certains diplômes, où on doit passer notre thèse de médecine, puis notre thèse de science, puis notre habilitation à diriger des recherches, et puis avoir des travaux internationaux assez reconnus pour qu'on puisse avoir assez de points quand on passe le concours de professeur des universités. Évidemment, plus on va perdre de temps, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, parce qu'une grossesse n'est pas du temps perdu, mais dans le cursus académique, c'est probablement pas reconnu à sa juste place.
Est-ce qu'il faut, docteur Benbouzid, à certains moments de la carrière de médecin, renoncer à certains projets personnels?
Oui, enfin, moi personnellement, j'ai mis entre parenthèses certaines choses que j'ai rattrapées plus tard. Après, ce que j'explique à mes internes filles, c'est si vous avez l'envie de faire un bébé, que vous avez envie, c'est important pour vous. C'est à la profession de s'adapter et pas l'inverse, parce que le temps passe et après, des fois, on peut avoir des regrets. Donc, et au final, comme je leur dis, on arrivera toujours à trouver une solution. Si le projet d'avoir un enfant est très important, il faut le réaliser. Et après, on s'adaptera. Mais par contre, effectivement, quand on a l'enfant, par exemple, quand il est malade, nous, on peut pas annuler tout un programme opératoire pour rester à la maison avec son petit. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un compagnon qui vous soutienne, avoir éventuellement un entourage qui comprenne la situation. C'est une organisation que, effectivement, les hommes ne se posent pas. Par exemple, moi, mes collègues masculins, si leur enfant est malade, c'est leur femme qui s'arrête. Voilà. Moi, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que j'ai toute une organisation derrière. Et ça, c'est vrai que les hommes ne se posent pas cette question.
Avec une organisation qui passe aussi par ce qui est prévu par les institutions médicales et hospitalières, notamment en termes de remplacement. Il y a vraiment aussi là un travail à faire parce qu'on peut parler comme ça philosophiquement de ce qu'il faut faire pour changer les choses. Il y a aussi, quand on est arrêté pour une grossesse, voire une grossesse pathologique, ça va être plus long, il faut qu'il y ait un remplacement et c'est pas toujours le cas.
Bien sûr, ce n'est jamais le cas. Quand un médecin à l'hôpital est en congé maladie, surtout en congé maternité, il n'y a jamais de remplacement.
Et ça paraît...
c'est absolument anormal.
Mais ça paraît incroyable.
C'est incroyable, mais c'est complètement anormal parce que nous qui avons une conscience professionnelle très importante, c'est quelque chose qui nous angoisse énormément et qui va faire, par exemple, que l'on va partir très tard en congé de maternité et que l'on va rentrer très tôt notre congé de maternité. Parce qu'on a cette conscience professionnelle et cette culpabilité personnelle de ne pas être à pied d'œuvre là où on a besoin de nous.
Docteur Benbouzid, pour tout vous dire, moi j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette émission que vous n'étiez pas remplacé. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que la question se pose à un moment donné?
Non, la question se pose pas en fait. On vous demande de faire votre temps et c'est vrai qu'on pousse comme vous l'avez dit. On part très tard. Par exemple, le congé patho, on le prend pas. Tout va bien, on repousse la prise de congé de maternité. Et effectivement, dès qu'on doit reprendre, on reprend tout de suite sur les chapeaux de roue et on doit faire comme si c'était rien passé en fait. Et effectivement, la question ne se pose pas d'être remplacé. Alors, vous avez vos collègues qui vont peut-être travailler un peu plus et vous le faire comprendre quand vous allez rentrer. Mais non.
La vie continue, comme on dit. En tout cas, faire sa place, ça peut être difficile aussi quand certaines personnalités occupent l'espace. Une autre illustration tout de suite.
RFI à Bukavu, 98 FM.
Faire sa place lorsque l'on travaille aux côtés et avec un prix Nobel de la paix, un médecin, une figure de renommée internationale comme le professeur Denis Mukwege, c'est ce que vous faites depuis des années à l'hôpital de Panzi de Bukavu, en RDC. Docteur Nima Rukungu Nadine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors docteur Rukungu, vous êtes médecin résident en gynécologie obstétrique, formatrice internationale sur la prise en charge holistique des violences sexuelles, membre du conseil d'administration de la fondation Panzi. Depuis combien d'années déjà est-ce que vous travaillez aux côtés du professeur Mukwege?
Bon là, je suis déjà à 15 ans, mais avant cela, je l'avais eu comme maître, déjà comme étudiante pour la médecine générale. Et donc, je l'ai connu un peu plus avant ça.
Vous avez croisé sa route précisément en quelle année?
Oh là là, je l'ai croisé depuis ma naissance au Burundi, quand il était encore étudiant. Et moi, je venais de naître. C'est lui qui a suivi ma maman. Il n'avait même pas encore fini sa médecine. Ça fait que même à 6 ans, c'est le premier qui m'a fait des injections. C'était le médecin de famille. Il a fait un mois en me piquant. Et donc, j'ai passé une dizaine d'années en train de le fuir. Je voyais en lui juste les piqûres. Quand j'ai commencé encore l'université, en 2003 ou 2002, là, c'était vraiment mon encadreur.
Alors, il est donc passé du médecin de famille à Monsieur Piqûre et maintenant, on va dire, cette personnalité à Panzi qui rayonne sur les lieux au sens propre comme au figuré. Dans cet hôpital de Panzi, on va dire, la place des femmes est exceptionnelle à tous les titres. D'abord parce que ce sont les patientes, ces victimes de violences sexuelles. Et puis, parce que les soignantes, ils sont extrêmement nombreuses à Panzi. Est-ce que vous diriez que le professeur Mukwege aime particulièrement travailler pour et avec les femmes?
Je ne le dirai pas, en fait, je l'affirme. Il est né le 1er mars. On a organisé une cérémonie d'anniversaire. Et nous tous, on était unanimes pour dire que ce soit comme médecin généraliste, médecin spécialiste, que ce soit comme infirmière, que ce soit comme administratrice, que ce soit comme agent de propriété, que à tous les niveaux, en fait, on était unanime pour dire que ceci a permis à la femme, en fait, d'être vue d'une autre manière. C'est un modèle même pour les hommes, nos maris, pour montrer qu'est-ce qu'un homme peut faire pour accompagner sa femme, pour qu'elle puisse, en fait, se développer, pour qu'elle puisse s'épanouir.
Être une femme soignante à Panzi, docteur Rukungu, c'est un plus, un moins, ou ni l'un ni l'autre?
C'est un plus. Être une femme soignante, en particulier à Panzi, pour moi, c'est un plus. On te valorise, en fait. Et en te valorisant, on montre, en fait, qu'est-ce que toi, tu peux faire en plus. Quel est l'apport réel de la femme dans une communauté? Les compétences féminines sont les plus valorisées, en fait, les plus qu'on va essayer de les mettre encore plus en avant, d'encourager encore plus les femmes à faire de leur mieux. Et un plus encore, c'est le fait, étant des femmes, on a besoin d'être à la fois femmes dans nos familles, mais aussi dans notre métier, comme médecin, comme soignant. Et donc, ça aussi, avoir déjà cette impression, cette sensation que nos maris, nos enfants sont valorisés et on leur comprend, on leur essaye de leur inculquer le fait que s'ils sont nos alliés, c'est ça qui va nous aider à faire plus, à faire mieux, à nous épanouir, à épanouir notre communauté, à épanouir nos familles.
C'est un engagement collectif. Quand vous êtes engagé en médecine au moment des études, qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce que ce sera plus difficile pour moi parce que je suis née fille?
Au départ, en fait, quand on est toute petite, on est jeune, on a des ambitions, on a des rêves, tu vois. Mais après, en fait, quand on commence à avoir 25, quand on a terminé sa médecine générale et qu'on entre dans la vie active, c'est à ce moment-là, quand on doit fonder une famille, n'est-ce pas, que les questions commencent à se poser avec tout ce qu'il y a comme charge sur la femme, mais aussi il y a toute la partie de notre évolution et épanouissement personnel sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Et là, les questions commencent réellement à se poser.
Docteur, j'entends votre optimisme, votre positivisme. Je ne veux pas non plus faire ramener des mauvais souvenirs. Malgré tout, vous avez dû croiser des hommes médecins qui n'ont pas été gentils tous les jours, pas courtois, pas galants, pas corrects, tout simplement.
Oui, exact. Et ça, c'est un défi de chaque jour auquel les femmes vont faire face. Parce que quand elle est sociale, elle reste féminine, elle reste elle-même. On va penser qu'elle n'aura pas suffisamment d'autorité pour gérer, par exemple, pour accéder à certains postes de responsabilité. Et quand elle devient, en fait, elle prend cette attitude de se protéger, elle devient elle se masculinise, c'est ce que je veux dire, un peu entre parenthèses. Là encore, elle est critiquée. Donc au final, la femme doit essayer de trouver un juste milieu pour rester elle-même féminine, mais avoir suffisamment d'autorité pour gérer, parce que la femme, il faut qu'on se le dise, que ce soit la gestion des ressources humaines, que ce soit la gestion même au niveau, par exemple, des hôpitaux, des malades, le suivi, l'accompagnement, je crois qu'on est les meilleurs. Je pense qu'ils ont juste peur, les hommes, parfois.
C'est un sanctuaire pour vous, Panzi, sanctuaire pour soigner les femmes et sanctuaire professionnel?
Oui. Personnellement, moi, c'est très important parce que ça me renvoie de l'énergie positive. Quand je vois déjà les malades, par quoi elles vont faire face et comment elles s'en sortent après, ça, c'est quelque chose qui me construit énormément. Après, il y a toutes les collègues avec lesquelles je travaille, chacune avec des défis personnels, qui continuent à donner de son mieux et qui se bat en fait pour améliorer son quotidien, pour améliorer en fait la qualité même du service qu'elle rend. Pour moi, en fait, c'est très, très constructif. Tout ça m'aide énormément, moi, dans ma vie de chaque jour, dans mes ambitions. Donc, comment est-ce que je me vois, je me projette, que ce soit sur le plan professionnel autant que sur le plan personnel et familial.
Merci beaucoup, docteur Rukungu. Merci pour cet optimisme que vous nous avez transmis. Et excellente journée à l'hôpital de Panzi à Bukavu. Professeur, là, comment on comprend le rôle que peut jouer un mentor dans une profession comme la vôtre, hein, le professeur Mukwege pour le docteur Nadine Rukungu qu'on vient d'entendre à l'instant. Si on s'intéresse maintenant aux façons de briser ce plafond de verre dont on parle depuis le début de cette émission, est-ce que le mentorat féminin, on va dire, appuyer des collègues, des consoeurs femmes, hein, c'est quelque chose qui vous semble intéressant, c'est quelque chose dont on parle?
Ah oui, c'est essentiel de montrer la voie, en fait, de montrer l'exemple et de soutenir et d'aider, de porter les plus jeunes. Absolument, c'est un travail qui a été initié dans de nombreuses universités. Maintenant, par exemple, qu'en France, nous avons des diplômes d'études spécialisées de nouvelle génération, on va dire, il y a ce système de mentorat, il y a des coordonnateurs, des coordonnatrices de ce diplôme d'études spécialisées qui sont là pour aider au quotidien les jeunes qui s'engagent dans la voie des spécialités. Et je pense que c'est porter les plus jeunes et leur donner confiance dans leur savoir, dans leur capacité à avancer, est vraiment essentiel.
Alors, tout à l'heure, on parlait de la visibilité médiatique. Il y a autre chose aussi où les femmes sont sous-représentées en médecine. C'est les associations médicales. Là aussi, il y a du travail à faire pour prendre des présidences, des postes de responsabilité, parce que là aussi, ça donne de la visibilité, puisque c'est souvent ces experts-là qu'on invite.
Tout à fait. C'est vrai que
c'est un domaine où les ligues, tout ça, c'est souvent des hommes qui sont à la tête.
Absolument. Beaucoup d'associations. Alors, il faut savoir, et je peux justement en parler ici à RFI, parce que vous êtes très sensibilisés à cela. On a par exemple une grosse association qui s'appelle la FRAVI, l'association francophone VIH, qui concerne vraiment toute la communauté francophone, qui est présidée depuis de très nombreuses années par une femme, le professeur Christine Katlama, qui a montré la voie, voilà, qui a montré la voie justement.
La conférence virtuelle.
Absolument. Donc, qui a montré la voie en tant que président d'une association. Il faudrait que cette voie-là soit beaucoup plus empruntée par les femmes. Absolument.
Docteur Benbouzi, dont vous retrouvez en ligne, à l'instant, le docteur Rukungu évoquait peut-être une tentation de se virilisée pour échapper à une certaine misogynie. Hein. On l'a dit, joue là comme un garçon, on va dire un petit peu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on a tendance à gommer une part de féminité? C'est pas du tout anecdotique ce que je demande, parce que c'est vrai que des fois, être femme, c'est aussi, pour monter en grade, être un petit peu moins femme pour être un petit peu plus prise au sérieux, soi-disant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, en chirurgie?
Oui, mais alors moi je pars du principe qu'il faut pas se déguiser en homme mm-hmm. pour se faire respecter. Il mm-hmm. faut être fière d'être une femme. Et je trouve que c'est important de rester féminine. Je trouve que les femmes qui se comportent exactement comme des hommes, c'est comme si on avait honte d'être une femme en fait. Essayer de rester féminine, alors effectivement, hein, il faut pas, c'est vrai qu'une femme, on va penser qu'elle va pleurer plus facilement, qu'elle va se plaindre, je trouve qu'il faut pas verser là-dedans, en fait.
Lutter contre les stéréotypes.
Voilà, exactement. Et pas donner de grain à moudre, en fait.
Alors, un autre, on parlait des associations avec des femmes moins représentées. Il y a aussi les publications médicales. Là, c'est flagrant, hein. Au niveau international, 63% de publications signées par des hommes. Est-ce que ça veut dire, d'une certaine manière, c'est un autre chapitre, qu'on peut considérer qu'il y a une médecine davantage genrée, docteur Sabrina Benbouzid? Est-ce que le fait que la science, la recherche soit pensée par des hommes, est-ce que ça veut dire que plus souvent, elle est pensée pour des hommes? Alors, un silence qui en dit long. Alors, je vais vous aider à retrouver vos esprits, parce qu'on y a consacré plusieurs émissions, notamment en décembre. Il y avait eu la publication d'un livre, Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées, aux éditions du Seuil, livre co-signé par les journalistes Delphine Bauer et Ariane Puccini. C'est vraiment une pensée qui est dans l'air du temps. Il y a un livre qui vient de sortir aux éditions Erol, Hystérique, au pluriel, avec un point d'interrogation, Histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes, signé Thierry Delcourt. Est-ce que si davantage de femmes soignaient, eh bien, les femmes seraient mieux soignées? Voilà une autre façon de poser la question. Toujours à vous, docteur Benbouzid. Est-ce que vous avez repris vos esprits?
Comment dire?
C'est une question qui est vaste, mais je me tourne vers vous, professeur Lacombe.
Oui, si vous le souhaitez,
l'infectiologie, c'est pas forcément, ça répond pas au genre, quoique on voit même sur le Covid. Il y a des différences en termes de genre, en termes de prise en charge. Par exemple, les Covid longs, on remarque que davantage de femmes sont concernées, alors qu'en réa, davantage d'hommes sont admis. Donc il y a des réalités épidémiologiques, hommes-femmes. Que ce soit des hommes qui fassent les recherches, et surtout sur un point très important, on parlait tout à l'heure des études, des publications, les études de cas, les hommes sont beaucoup plus représentés, c'est sur eux le plus souvent que sont faits les essais. On le comprend pour des histoires de grossesse et de risques. Est-ce qu'il y a une vraie question homme-femme qui se pose sur ce point précis en santé?
Alors oui, enfin, je peux parfaitement vous rapporter ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le milieu du VIH, en particulier la recherche thérapeutique sur le VIH, parce que c'est une question dont on s'est emparé depuis de nombreuses années, où il y a même maintenant obligation d'inclure dans les essais d'évaluation de traitement VIH un pourcentage de femmes qui est fixé à l'avance, hein, qui doit au moins correspondre à 30 à 40% des personnes incluses dans les essais VIH. Alors effectivement, il y a plusieurs raisons qui fait que la recherche clinique concerne moins les femmes. Donc vous l'avez souligné, il y a la question de la grossesse, où quand un médicament est à l'essai, eh bien dans les essais de phase précoce, on n'inclut pas de femmes par peur de la tératogénicité potentielle des molécules. Mais il y a aussi la disponibilité des femmes pour être incluses dans des essais. Parce que les femmes ont un engagement professionnel, ont des enfants, ont une vie de famille qui fait qu'elles sont moins à même d'arriver tôt le matin à l'hôpital pour les prises de sang, parce qu'il faut arriver à 8h du matin pour les prises de sang dans les essais thérapeutiques. Il y a aussi la garde des enfants. Quand elles passent une matinée à l'hôpital pour les examens, qui va garder les enfants? Et puis, il y a aussi, comme vous le dites, quelque chose d'inconscient et sur lequel il faut qu'on travaille pour le rendre conscient, qui est que quand on a un essai thérapeutique, on le propose plus facilement à un homme qu'à une femme. Et les conséquences de cette discrimination, qui est souvent inconsciente, hein, c'est que les médicaments ne sont pas toujours adaptés à la physiologie des femmes. On sait que les femmes, par exemple, ont une masse graisseuse plus importante que les hommes, et les molécules ne se diffusent pas de la même façon dans la masse graisseuse que dans la masse musculaire. Il y a aussi des particularités hormonales des femmes qui font que les traitements n'agissent pas de la même façon. Et c'est pour ça, par exemple, que de nombreuses molécules VIH, de antirétrovirales qui traitent le VIH, entraînent plus d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes.
C'est également quelque chose qui est constaté, et sur le papier, ça se retrouve dans les récents scandales sanitaires qui ont plus souvent concerné des traitements administrés aux femmes qu'aux hommes.
Absolument.
On le voit avec le Mediator, avec l'Androcure, tout ça, c'était des...
Oui, tout à fait, avec prioritairement... avec la supplémentation en hormones thyroïdiennes, etc. Tout à fait.
Alors,
le métabolisme est important.
La question du métabolisme. Parmi les facteurs d'inégalité, on a donc cité toute une série de causes potentielles, mais il y a aussi ce qu'on va appeler les réseaux masculins pour gravir les échelons, pouvoir s'appuyer sur des soutiens, c'est très important, des confrères, des référents. Docteur Sabrina Benbouzid, est-ce que d'après vous, il y a aussi un travail à faire sur ce plan? On ne va pas aller jusqu'à parler de sororité, on n'en est pas là, mais en tout cas, des femmes médecins qui donnent le relais, ça revient au mentorat, mais même là, à travers la même génération, s'appuyer pour se soutenir et pour pouvoir donner aussi davantage de visibilité.
Ah, je pense que c'est très important de se soutenir entre femmes, notamment quand on a des femmes un peu plus expérimentées qui, à des moments de doute dans nos carrières, qui vont du coup nous faire part de leur expérience et de dire non, ceci est possible, il faut pas se mettre des barrières, il va falloir t'organiser de telle ou telle façon. De même que c'est important aussi d'avoir des hommes qui de plus en plus prennent conscience de la nécessité de la parité en fait, et que par exemple sur des conseils il faut qu'il y ait des femmes, dans un conseil administratif il faut quand même qu'il y ait des femmes, qu'on peut pas faire une assemblée qu'avec des hommes, parce que du coup c'est hors du temps à l'heure actuelle, et surtout en fait ça permet d'avoir différents points de vue, et c'est pour ça que moi je pense que c'est très important la sororité de soutenir entre femmes, en fait.
Et on y contribue. Devenir médecin, un engagement, la nouvelle génération, un nouveau témoignage dans Priorité Santé.
RFI à Dakar, 92 FM.
En ligne du Sénégal, on vous retrouve, Mama Aminata Camara, bonjour.
Bonjour Caroline, comment vous allez?
Merci, très bien. Étudiante à la fac de médecine à l'université Cheikh Diop. Alors, en sixième année, une question très simple et très directe. Pourquoi avoir choisi la médecine?
Un rêve d'enfant, comme la plupart diraient. Hein. Depuis que je suis toute jeune, pour moi, la médecine, ça a été le choix. C'est là où il fallait être.
Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur les bancs de la fac de médecine à Dakar, cette université Cheikh Diop? Un équilibre en médecine, filles-garçons, ou encore davantage de garçons majoritaires?
Moi je dirais plus autant de garçons que de filles. Enfin, c'est l'impression que j'ai depuis que je suis en première année. Je n'ai pas l'impression qu'il y a plus d'hommes que de femmes, j'ai l'impression qu'on est à égalité.
À égalité. Alors, les cours, les stages, maintenant, sixième année. Justement, quand vous êtes dans les services hospitaliers, est-ce que vous avez pu ressentir certaines discriminations, ou c'est quelque chose, une mauvaise expérience que vous n'avez pas eue jusqu'à présent?
Surtout, en fait, au Sénégal, on a nos réalités, on a notre culture. Du coup, parfois, on peut rencontrer dans les services hospitaliers, par exemple, des patients qui ne veulent pas être touchés par des femmes, qui préfèrent être consultés par des hommes. Du coup, c'est des expériences qu'on a eues à avoir au cours de nos stages hospitaliers.
Ça veut dire que là, la question, elle ne se pose pas vraiment du côté, on va dire, de vos confrères, des médecins, de l'administratif à l'hôpital, mais plutôt vraiment du côté des patients.
Oui, dans ce sens-là, c'est plutôt par rapport aux patients. Par exemple, ils vont se dire que leur religion ou bien la culture ne leur permet pas, par exemple, de se déshabiller devant, une femme.
Mm-hmm.
Et donc, j'imagine que pour les hommes, ce sera pareil, par exemple, lors du stage hospitalier en gynécologie, par exemple. Mais nous, ce sera en urologie ou bien dans une autre spécialité où le patient aura besoin de se déshabiller, surtout devant une femme.
Devant une femme. Alors aujourd'hui, en termes de spécialité, vous avez fait votre choix, justement. Vous venez de citer différentes spécialités. Pour vous, c'est établi?
Disons que là, actuellement, j'hésite entre deux spécialités.
Mm-hmm.
J'ai la chirurgie infantile et la gynéco-obstétrique.
Mm-hmm. Chirurgie pédiatrique, gynécologie. Aujourd'hui, ces deux spécialités, elles sont plutôt féminines ou plutôt masculines dans le contexte sénégalais?
D'après ce que j'ai vu,
mm-hmm.
En chirurgie pédiatrique, par exemple, j'ai eu à voir beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Mm-hmm.
En gynéco aussi, c'est la même chose.
Et c'est pas quelque chose qui vous freine, vous, qui est beaucoup d'hommes, c'est pas quelque chose, vous dites, je n'ai pas ma place. Vous avez justement toute l'envie de vous faire votre place dans ce cercle.
Bien, absolument pas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes que je vais me dire non, ici, j'ai pas ma place ici. Déjà au début, première, deuxième année, certains nous disaient, oui, il faut pas choisir telle ou telle spécialité parce que voilà, vous êtes des femmes, après vous devez avoir une vie de famille, vous devez avoir beaucoup plus de temps pour votre famille, par exemple.
Mmh.
Mais moi, je me dis, j'ai pas choisi la médecine après pour faire une spécialité que j'aime pas, juste pour avoir plus de temps. Ça n'a pas de sens et c'est absurde.
Est-ce que vous sentez une différence par rapport aux enseignants dans une fac comme chez Ranta Diop, l'essentiel des professeurs sont encore des hommes. Est-ce que vous sentez justement une différence dans la façon de vous parler? Est-ce que c'est exactement paritaire, égalitaire?
Non, c'est égalitaire.
Les
professeurs n'ont pas ce sentiment-là de parler, par exemple, à une femme ou bien à un homme. Ils nous prennent pour un étudiant, une étudiante, et puis ça s'arrête là.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé quand même des questions particulières? On sait que vous en avez pour des années, hein, c'est loin d'être fini là les études, Mama Aminata Camara. Vous posez des questions parce que quand on est femme, justement tout à l'heure vous parliez du contexte, hein, en Afrique de l'Ouest, il y a une très forte pression. On va dire, quand on n'a pas d'enfant, après la vingtaine, la famille commence à poser des questions, à presser, à dire bah, il va falloir peut-être se marier, fonder une famille. Est-ce que c'est le genre de pression que vous subissez ou absolument pas?
Tous les jours. Et là, actuellement, cette pression ne vient même pas de la famille proche.
Mmh.
Alors, ça ne vient pas du papa ou de la maman, mais c'est plutôt les tantes, les cousins, les amis.
Mmh.
Qui vont te dire chaque jour, surtout lorsqu'on se rencontre dans les cérémonies familiales. Il y a cette pression-là qui est toujours présente. Quand est-ce que tu vas te marier? Il faut que tu penses au mariage, il faut que tu aies des enfants.
C'est quoi votre parade? Vous avez préparé des réponses toutes faites maintenant que vous servez à tout le monde ou à chaque fois ça vous pèse, à chaque fois
exactement,
c'est pénible?
Exactement. Et maintenant, j'ai un catalogue de réponses.
Les formules coup, magiques.
Exactement. Quand on me sort une phrase comme il faut que tu te maries parce que voilà quoi, tu es une femme, le temps est compté, je dis bah il y a énormément d'orphelins qui demandent à être adoptés, la procréation assistée est développée maintenant. J'en ai une liste qui ne se termine jamais.
Bon, eh ben, ça fait du bien entendre ce que vous nous dites, Mama Aminata Camara, pour toutes celles et ceux qui continuent de presser les filles.
Exactement.
Laissez-les faire ce qu'elles veulent. Merci beaucoup. Très bonne continuation à vous. On retrouve nos deux invités pour la dernière partie de cet échange. On perçoit bien la différence de contexte, mais j'imagine quand même que ça doit rappeler quelques souvenirs. Si on remonte le temps, professeur Karine Lacombe, on connaît la réputation des études de médecine, l'expression de carabin, cette grivoiserie à prendre ou à laisser. On dit que c'est la tradition. Des témoignages aussi qui reflètent, là c'est beaucoup moins souriant, une forme d'humiliation sexuelle en milieu hospitalier. Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées ou subies ou c'était déjà dépassé?
Non, c'est des choses que j'ai rencontrées. Alors après, je dirais pas que j'ai constamment subi.
Mm-hmm.
Je pense qu'à un moment donné, on a, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, j'ai tout le temps eu le pouvoir de dire non, mm-hmm, quand je l'ai souhaité. J'espère que la majorité des femmes ont été dans le même cas que moi. je sais qu'il y a eu des situations où il y a eu une soumission à une certaine ambiance qui tourne, comme vous dites, autour de la grivoiserie avec une sexualité latente, une sexualisation latente des situations. Je sais aussi qu'on a été nombreuses à avoir eu des, ce qu'on pourrait maintenant qualifier hein, d'attouchements ou d'agressions sexuelles, finalement, à l'occasion de gardes ou autres, à une époque justement qui remonte à quelques dizaines d'années. À 10-20 ans où on n'avait pas où on ne qualifiait pas ça d'agression sexuelle. Je m'étais exprimée il y a quelque temps sur le sujet et je pense que maintenant ça a changé. Il ne faut pas non plus complètement stigmatiser les soirées étudiantes qu'il peut y avoir en médecine ou autre parce que la femme est aussi propriétaire de son corps et elle peut en faire ce qu'elle veut sans que forcément ce soit quelque chose qui doivent être jugé. Donc voilà, il faut rester dans un certain équilibre des choses et évidemment lutter contre les attitudes sexistes à l'hôpital. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup avec cette domination masculine qui, même si les choses évoluent, persiste dans certaines circonstances.
Docteur Benbouzid, vous aussi, vous exercez dans un grand hôpital parisien. Cette présentation un petit peu de la sexualisation comme exutoire d'un métier prenant, d'un métier tendu, c'est quelque chose qui est encore court ou pour vous, aujourd'hui, c'est dépassé ?
Moi, je trouve que les choses ont beaucoup, beaucoup changé depuis mes études, notamment là, ces dernières années avec la libération de MeToo, en fait. Il y a eu une réelle prise de conscience, en fait, notamment sur certains comportements, dans certains services où on humiliait les étudiantes avec des réflexions à caractère sexuel et où tout le monde se sentait un petit peu gêné parce que comme c'était le professeur qui faisait une réflexion, donc on se sentait tous obligés de rigoler, de se dire, effectivement, c'est un peu limite ce qu'il vient de faire comme réflexion, mais bon, il n'y a pas mort d'homme à chaque fois. C'est la réflexion qui revient souvent. Et là, depuis qu'il y a eu la libération de la parole avec MeToo, en fait, il y a d'ailleurs beaucoup plus de prise de conscience. Et en fait, on se rend compte que, au bloc opératoire, on ne peut pas se permettre de faire une réflexion à caractère sexuel devant tout le monde, humilier l'externe. Et ça, c'est des choses qui sont de moins en moins tolérées et qui, d'ailleurs, remontent au doyen lorsqu'il y a ce genre de choses. Et le professeur ou l'agrégé, enfin, ou en tout cas, le titulaire qui s'est permis de faire ce genre de réflexion peut être convoqué par le doyen avec des fois des sanctions qui sont mises sur certains services. Moi, je trouve ça très bien parce que, étant étudiante, j'ai assisté plusieurs fois à certains spectacles que je trouvais pas normal, mais où j'avais pas mon mot à dire. Et maintenant, je trouve que c'est des choses qui sont plus tolérées et qui vont. Et je trouve que les choses évoluent dans le bon sens.
C'est toujours une bonne chose quand les choses évoluent dans le bon sens. On va vers le beau, on l'espère tous, hein, tous ensemble, avec ce qu'on traverse, que les choses s'améliorent donc. Merci à toutes les deux, merci infiniment pour votre participation. Professeur Karine Lacombe, on vous rend à vos patients de l'hôpital Saint-Antoine, où vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales. Et très bonne journée, merci pour votre disponibilité également, docteur Sabrina Benbouzid, chirurgienne urologue à l'hôpital Tenon à Paris. Merci. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu. Demain, on va parler du glaucome, maladie de l'œil qui entraîne une destruction du nerf optique avec à terme un risque de cécité, dépistage, traitement, prise en charge précoce. On en parle demain. On répond à vos questions en direct. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunois Assurance IARD-RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.